à Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. L'ONU organise une conférence humanitaire à Genève pour lever des fonds pour la RDC, mais sans le gouvernement congolais qui les accuse d'exagérer la crise dans le pays.
Si vraiment ces promesses de dons qui ont été faites aujourd'hui se matérialisent, et il n'y a aucune raison de penser que l'argent ne viendra pas.
Au Nigeria, plus de 1000 enfants enlevés par Boko Haram depuis le début de l'insurrection. Une annonce faite par l'UNICEF à la veille du 4e anniversaire de l'enlèvement des filles de Chibok. Au Burkina Faso, un élève tué, un enseignant enlevé hier par des hommes armés dans le nord du pays, près de la frontière avec le Mali. Et dans nos dossiers du jour, les Togolais vivant aux États-Unis manifestent aujourd'hui devant le siège des Nations Unies à New York.
On a comme l'impression que cette communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les grands pays européens, sont en train de soutenir cette dictature.
Dans la Minute Éco, on évoquera la baisse des fonds d'investissement privés en Afrique et Bayern Real, le match au sommet des demi-finales de la Ligue des Champions dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. La conférence des donateurs pour la République démocratique du Congo s'est ouverte ce vendredi à Genève contre la volonté de Kinshasa. L'Union européenne et les Nations unies ont maintenu cette réunion avec le soutien de l'opposition congolaise et des ONG. Le point avec Blanche Sanou.
Le gouvernement congolais a refusé de participer à la conférence des donateurs organisée à Genève. Selon l'ONU, la République démocratique du Congo compte 4 500 000 déplacés et 13 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire. Face à ce besoin urgent, Jens Lerck, le porte-parole des Nations Unies pour les affaires humanitaires, a indiqué la nécessité de lever des fonds, non pas pour le gouvernement, mais pour ces milliers de gens dans la pauvreté. Quant à Kinshasa, il accuse l'ONU de noircir la situation en RDC et de faire fuir les investisseurs. Mais l'opposition n'est pas du même avis. Pour Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, le gouvernement est indifférent face à la misère du peuple congolais. À 8 mois des élections qui doivent sortir la RDC de sa crise politique, la conférence de Genève est venue s'ajouter au panier des pommes de discorde entre le pouvoir congolais et l'opposition. Les donateurs comptent mobiliser près de 1,7 milliard de dollars pour financer la réponse humanitaire nécessaire en RDC.
Autre réunion depuis ce matin au Congo à Brazzaville, celle des ministres des Finances des pays membres de la zone franc. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, est plongée dans une grave crise budgétaire. La bonne gouvernance économique, la bonne gouvernance de l'État et la lutte contre la corruption sont au cœur des discussions présidées par Clément Mouamba, le premier ministre congolais. Au Nigeria, au moins 26 personnes ont été tuées par des hommes armés dans le nord du pays. Des bandits armés à moto ont attaqué des mineurs sur un site d'orpaillage près du village de Kourou-Kourou avant de tendre une embuscade aux habitants d'une localité voisine qui s'était mobilisée contre les assaillants. Nous pensons qu'ils lancent de nouvelles attaques parce que les gens coopèrent avec l'armée pour lutter contre les bandits, c'est ce qu'a expliqué l'un des habitants. Et le Nigeria se prépare à commémorer demain le 4e anniversaire de l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Souvenez-vous, le 14 avril 2014, des hommes armés ont pris d'assaut l'internat pour filles dans l'état de Borno, alors en pleine semaine d'examen du baccalauréat, obligeant 276 élèves à grimper dans des camions avant de s'enfoncer en brousse. Retour sur ce drame avec Morgane Guériec.
Juste après le rapt, 57 otages réussiront à s'échapper en sautant des véhicules en marche et à rentrer chez elles, tandis que 219 resteront aux mains de Boko Haram. Dans les 3 années qui ont suivi, 107 lycéennes ont pu être retrouvées, secourues ou échangées suite à des négociations entre le gouvernement et leurs ravisseurs. Mais les autres sont toujours captives. Cet enlèvement de masse qui a provoqué une vague d'indignation mondiale est devenu le symbole des exactions commises par le groupe djihadiste qui a fait 20 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria depuis 2009. Malheureusement, l'enlèvement de Chibok n'est pas un cas isolé. Un drame similaire s'est produit à Dabchi en février. Cette fois-ci, Boko Haram a kidnappé plus de 100 filles. À croire que Boko Haram n'est pas vaincu, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement du Nigeria.
Nouvelle attaque au Burkina Faso. Un élève a été tué, un enseignant enlevé par des individus armés dans une attaque contre une école primaire dans le nord du pays. Les écoles ont été contraintes de fermer et selon le Premier ministre burkinabé, environ 216 écoles ont fermé et plus de 800 enseignants ont fui le nord du pays, cible d'attaques terroristes. En Somalie, une explosion a retenti dans un stade plein de supporters. Au moins 5 d'entre eux ont été tués, 8 autres grièvement blessés. Des témoins affirment que la bombe avait été enterrée sous le terrain du stade. L'attaque a été par la suite revendiquée par le mouvement Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. En Gambie, nouvelle victoire pour le parti au pouvoir, le Parti démocratique unifié. L'ancienne opposition au président déchu Yahya Jammeh, l'UDP a remporté les élections municipales. Selon des résultats publiés par la commission électorale suivante, sorti vainqueur dans 62 localités devant le Congrès démocratique de Gambie qui l'a emporté dans 23 autres localités. L'Ouganda envisage d'accueillir quelques 500 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël que l'État hébreu entend expulser. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Moussa Ekweru, secrétaire d'État ougandais en charge des réfugiés, a fait savoir qu'Israël ne payera pas l'Ouganda pour accueillir ses migrants. Il a assuré que les motivations de Kampala sont, je cite, purement humanitaires, ajoutant que les migrants ne seraient pas expulsés de force. Le gouvernement israélien veut expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Il leur propose de partir volontairement avec une somme de 3 500 $ sous peine d'être arrêtés et détenus jusqu'à ce qu'ils acceptent de quitter le pays. Des ONG soutiennent depuis plusieurs mois que des accords ont été passés avec l'Ouganda et le Rwanda, ce que les pays concernés avaient démenti à plusieurs reprises. Début avril, le premier ministre israélien avait accepté d'annuler ce programme d'expulsion, assurant qu'un accord avec le HCR allait permettre de transférer les migrants concernés vers des pays comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. Mais M. Netanyahou a fait volte-face quelques heures plus tard et annulé l'accord avec l'ONU. Selon les autorités israéliennes, 42 000 migrants africains vivent actuellement en Israël.
Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe refuse de rendre les clés d'une résidence officielle proche de la présidence près de 5 mois après sa démission, selon le porte-parole de la présidence zimbabwéenne. Ce dernier a expliqué que l'ancien chef d'État est pour l'heure à Singapour pour consulter ses médecins comme il le faisait régulièrement. Et en Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont assisté au retour de la dépouille de l'icône de la lutte anti-apartheid, Willie Mandela, à son domicile du township de Soweto, un prélude aux funérailles nationales qui y sont prévues samedi. Le gouvernement a décrété un deuil national jusqu'à samedi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde aujourd'hui son homologue français Emmanuel Macron contre tout acte irréfléchi et dangereux en Syrie. Cet avertissement survient suite aux menaces de riposte militaire des Occidentaux à une attaque chimique présumée. Les précisions avec Dili Dico.
Vladimir Poutine a prévenu qu'une réaction hâtive de la France pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Et plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a qualifié la dernière attaque chimique présumée en Syrie de mise en scène, à laquelle ont participé les services spéciaux d'un État russophobe. Monsieur Lavrov n'a pas nommé cet État, mais l'armée russe a affirmé disposer de preuves de la participation directe de la Grande-Bretagne à la mise en scène de l'attaque chimique dans la Ghouta orientale. Le porte-parole de l'armée russe, Igor Konashenkov, a accusé Londres d'avoir exercé une forte pression sur les casques blancs syriens, des sauveteurs en zone rebelle qui ont les premiers alerté sur cette attaque chimique présumée. Ces accusations arrivent alors qu'une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'apprête à débuter samedi son enquête dans la ville syrienne de Douma.
Et une nouvelle violence à la frontière entre Gaza et Israël, alors lors de protestations de milliers de Palestiniens pour le troisième vendredi consécutif, après des violences qui ont tué plus de 30 Palestiniens ces deux dernières semaines. Plus de 30 Palestiniens ont été blessés vendredi par des tirs de soldats israéliens et des grenades lacrymogènes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Et ici, aux États-Unis, un livre qui dépeint le président américain sous les traits d'un chef mafieux fait la une de la presse américaine avant même sa sortie. C'est le livre de l'ancien patron du FBI, Jeff Comey, qui doit être publié le 17 avril prochain, mais les premiers extraits de l'ouvrage ont été diffusés hier. James Comey relate ainsi que Donald Trump lui aurait demandé d'enquêter sur des rumeurs selon lesquelles il aurait été filmé avec des prostituées dans un hôtel de Moscou en 2013. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée par Eric Manirakita.
Le total des fonds d'investissement privés en Afrique est passé de plus de 4 milliards de dollars en 2015 à moins de 3 milliards en 2017. La crise pétrolière ou la chute des cours du cacao ont montré la fragilité de certaines économies comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. On note aussi un endettement public en hausse, tandis que les experts voient un différentiel grandissant entre les besoins en infrastructures et les réalisations. Cependant, le ministre de l'économie du Ghana assure que l'Afrique doit et va être le meilleur endroit pour investir à l'avenir. Mais les données économiques sont plus contrastées et certains indicateurs sont clairement au rouge. Le FMI salue la performance économique et les réformes au Niger. L'activité économique a progressé de près de 5% en 2017, avec une croissance de plus de 5% attendue pour 2018. Le FMI indique que la performance macroéconomique globale du pays reste forte, et le soutien des partenaires techniques et financiers ouvre une fenêtre d'opportunité pour les années à venir. La préparation du budget 2018 a provoqué une fronde sociale. Depuis octobre 2017, des groupes de la société civile et de l'opposition politique organisent régulièrement des manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances qu'ils jugent antisociale. En revanche, le président Mahamadou Issoufou a estimé que la loi de finances 2018 répond aux aspirations du peuple.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir.
Bayern Real, ce sera le choc des demi-finales dans la Ligue des Champions.
Pardon. Tout à fait, Raïssa. C'est une finale hein, avant l'heure. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui même au siège de l'UEFA à Nyon. En Suisse donc, la mère de l'ex-international ukrainien Andrei Shevchenko a voulu que le Bayern Munich défie le double champion en titre, le Real Madrid, en demi-finale. Le Bayern et le Real, c'est 17 Ligues des Champions à eux deux, dont 12 pour le club de Madrid, record du genre. Le sort a été plutôt clément avec Liverpool de Mohamed Salah, Sadio Mané, Joël Matip. Les Reds ont hérité de l'AS Rome, d'où Salah a été transféré à Liverpool. Mais méfiance, car les Italiens viennent de renverser le FC Barcelone 1-4 à l'aller, 3-0 au retour. Au terme des matchs légendaires, les matchs allés auront lieu les 24 et 25 avril et les 1er et 2 mai pour le retour.
Et les oppositions des demi-finales de l'Europa League sont aussi connues, Yacouba.
Oui, après sa qualification épique face au RB Leipzig hier, 0-1 à l'aller, 5-2 au retour, l'Olympique de Marseille d'Abdenour, Anguissa et Clinton Ndji hérite du meilleur tirage possible hein, sur le papier avec le Red Bull Salzbourg des Maliens Samasekou et Aïdara. Les deux formations se sont déjà croisées cette saison en phase de groupe avec un bilan à l'avantage des Autrichiens, 1-0 à l'aller, 0-0 au retour. Le match aller aura lieu au Vélodrome le 26 avril, le retour à Salzbourg le 3 mai. L'autre demi-finale propose un énorme choc entre Arsenal du Nigérian Iwobi et l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Pâté.
Et pour finir, préparation du Mondial 2018, le Sénégal va affronter la Corée du Sud le 11 juin.
C'est connu enfin, le Sénégal et la Corée du Sud, tous deux qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie, s'affronteront à huis clos en Autriche. Attendu depuis des semaines, hein, l'annonce de cet ultime match de préparation des Lions a été faite en marge d'une réunion aujourd'hui même du comité du comité Russie 2018. Ce comité est composé notamment d'anciens internationaux avec pour objectif de vendre l'image du Sénégal pendant la Coupe du Monde. Avant leur cinquième match de préparation contre la Corée du Sud, les Lions vont rencontrer le Luxembourg le 31 mai et la Croatie le 8 juin. En Russie, le Sénégal va évoluer dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.
Mais c'est tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Yacouba Ouedraogo.
Merci à vous Raïssa.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'Union européenne, les Nations unies et les Pays-Bas maintiennent donc la conférence humanitaire pour la République démocratique du Congo qui s'est tenue aujourd'hui à Genève. Les autorités congolaises boycottent la réunion qui, selon elles, donne du Congo une mauvaise image, mais l'opposition et un certain nombre d'ONG congolaises la soutiennent. L'ambition des organisateurs est donc de lever 1,7 milliard de dollars pour financer la réponse humanitaire nécessaire en RDC. Pour une analyse des enjeux, Anastasie Tudiech a joint à Genève Jean-Philippe Chosy, le chef du bureau de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en République démocratique du Congo.
Je pense qu'on est certainement au-delà des 500 millions de dollars, mais encore une fois, c'est à confirmer.
On est loin de l'ambition du 1,7 milliard visé. Comment pensez-vous atteindre cette somme et pensez-vous l'atteindre?
Écoutez, si vraiment ces promesses de dons qui ont été faites aujourd'hui se matérialisent, et il n'y en a aucune raison de penser que l'argent ne viendra pas, on aura quand même une réponse, puisqu'on est qu'au mois d'avril 2018, une réponse en termes de l'appel consolidé qui a été lancé donc il y a quelques mois, une réponse qui est fort encourageante. Plusieurs bailleurs ont vraiment souligné aujourd'hui à Genève et bien que c'était une première infusion, si vous voulez, de financement et qu'en fonction de l'évolution de la crise, d'autres financements seraient mis à disposition. En tout cas, je pense qu'il y a une volonté affirmée aujourd'hui de la part des bailleurs et bien d'apporter une réponse financière pour permettre aux agences des Nations Unies, aux agences humanitaires, aux acteurs humanitaires en RDC, en partenariat avec nos partenaires congolais, eh bien, d'apporter une réponse appropriée à cette crise qui est quand même une crise aujourd'hui d'une ampleur considérable.
Comment les donateurs vont-ils s'y prendre pour faire parvenir l'argent récolté, rassemblé aux concernés, puisque Kinshasa a boycotté la réunion, difficile de passer par-dessus l'épaule du gouvernement?
Le gouvernement congolais a décidé de ne pas prendre part à cette réunion pour des raisons qui sont siennes. En tout cas, leur absence souligne le besoin pour la communauté humanitaire, pour les agences des Nations Unies, de redoubler d'efforts pour renouer un dialogue avec les autorités congolaises. À ma connaissance, en ce qui concerne l'Organisation internationale pour l'immigration, ce dialogue, il est quasiment quotidien. On a un partenariat extrêmement fort, par exemple, avec le ministère congolais de la Santé, la Commission nationale des réfugiés, donc qui dépend du ministère congolais de l'Intérieur. Donc, en ce qui nous concerne, on a un partenariat qui est robuste avec ces institutions. Et je pense qu'il y a une volonté affirmée du côté des agences des Nations Unies qui ont participé à cette conférence aujourd'hui, eh bien, de redoubler d'efforts pour qu'on puisse relancer, par exemple, le cadre national de concertation humanitaire et faire en sorte qu'on puisse, ensemble, avec nos partenaires congolais, apporter une réponse aux besoins des populations congolaises à l'heure actuelle.
C'était Jean-Philippe Chosy, chef du bureau de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en RDC.
Ce soir, dans l'Amérique et vous, retour sur le scandale provoqué par la fuite de données d'utilisateurs de Facebook. Des informations personnelles de 50 millions d'utilisateurs ont été utilisées par la société Cambridge Analytica pour influencer le vote des Américains pour l'élection présidentielle de 2016. Mark Zuckerberg, le patron du réseau social, s'expliquait cette semaine devant le Congrès américain. Quelles sont les informations collectées par Facebook? En quoi est-ce dangereux pour les utilisateurs? Comment protéger ces données personnelles? Morgane Gaillec, en votre compagnie, réagissez en direct à 19h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons. À ce soir.
Les Togolais vivant aux États-Unis et les membres de la coalition Togo Debout manifestent cet après-midi devant le siège des Nations Unies à New York. Ils veulent attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qu'ils appellent de graves violations des droits de l'homme dans leur pays, tout en soutenant l'opposition qui demande le retour à la constitution de 1992, un retour qui imposerait une limitation du nombre de mandats à 2. Abdourahman Dia a joint à New York la coordinatrice de Togo Debout USA, Claudine Matet.
La communauté internationale, bien que elle est au courant des violations des droits de l'homme et de tout ce qui se passe dans notre pays, mais pas en train de prendre des mesures pour arrêter cela. Au contraire, on a comme l'impression que cette communauté internationale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies et que ce soit les États-Unis, les grands pays développés, sont en train de soutenir cette dictature.
Et qu'est-ce que vous demandez à cette communauté internationale justement? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse?
Ce qu'on demande à la communauté internationale, c'est qu'il y ait le règlement, il y ait le respect des droits humains, surtout au Togo, où on a une histoire très particulière et on a vécu avec un dictateur pendant 38 ans, le général Eyadema. Mais à sa mort, malheureusement, il y a eu un coup d'État constitutionnel. En 48 heures, son fils, qui était député à l'Assemblée nationale, est devenu président de l'Assemblée nationale. Et de président de l'Assemblée nationale, il est devenu président de la République en 48 heures.
Vous parlez de l'actuel président Faure Gnassingbé, n'est-ce pas?
Effectivement. Et il a pris le pouvoir par la force, par un coup d'État, et aidé par l'armée togolaise, qui est loin d'être républicaine. Et le comble en Afrique de l'Ouest, comme vous l'avez remarqué, il y a un changement, il y a une alternance dans presque tous les pays. La Gambie en a connu tout dernièrement, mais malheureusement au Togo, et malgré ce coup d'État, Faure Gnassingbé veut demeurer au pouvoir comme son père.
Alors Claudine Maté, le président ghanéen a entrepris une médiation entre le pouvoir togolais et l'opposition. Cette médiation, selon vous, elle a des chances de réussir ou bien vous n'avez pas trop confiance?
On n'a jamais eu confiance en cette médiation, mais écoutez, dans toute histoire, dans tout problème, il faut qu'il y ait la diplomatie. Je crois que les partis de l'opposition au Togo ont montré leur bonne foi et ont voulu participer à un énième dialogue parce qu'au Togo, on a eu 27 dialogues qui n'ont jamais abouti. Mais malgré cela, ils ont accepté et on salue le président ghanéen qui a fait tous ses efforts. Mais malheureusement, on ne peut pas faire une bataille entre les deux camps. Le deuxième camp ne veut rien faire, ne veut rien entendre.
Claudine Maté, coordinatrice de Togo Debout USA. L'ONU va prochainement entreprendre d'identifier les Maliens faisant obstruction à la paix dans leur pays en vue de leur imposer des sanctions. C'est ce qu'ont fait savoir la France et les États-Unis cette semaine. Le chef de la diplomatie malienne, Tiémane Koulibaly, qui se trouvait à New York, a assuré que les petits pas accomplis au Mali pour établir la confiance entre les acteurs étaient des pas sûrs. Modibo Dembélé a recueilli la réaction de Yessa Maké, ancien ambassadeur du Mali en Inde.
Nous devons toujours tenir en compte que le Mali est un pays souverain et que l'ONU, en tant qu'organisation internationale, ne peut pas sanctionner le Mali, surtout dans cette affaire de crise du Nord, qui concerne l'intégrité territoriale du Mali. Nul ne peut être plus engagé à cela que nous-mêmes les Maliens. Donc dire que les États-Unis, quelle autre organisation a un enjeu plus élevé à la solution de la crise du Mali, que nous, Maliens, pas acceptable.
Quel, surtout face au mouvement rebelle, quand on regarde quand même des difficultés qu'on a à l'application de l'accord de paix qui a été signé, il faut le rappeler, depuis 2015.
Oui, mais moi, je ne comprends pas cette réaction tarde à quelques mois de l'élection présidentielle qui va sanctionner un nouveau régime au Mali. Ce que ce régime n'a pas pu faire 5 ans, comment peut-on espérer entre moi? Je pense que nous sommes de discuter quelque chose qui ne doit pas y être. 4 années de gestion de cette crise n'a abouti à une application de loi qui a été signée par les partis concernés. Comment peut-on s'attendre aujourd'hui que le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta puisse parvenir à résoudre cette crise à satisfaction? Je veux qu'aujourd'hui nous devons regarder les choses en face. Nous devons arriver à la conclusion que ce régime n'a pas les solutions. Alors, il ne sert à rien de précipiter, d'imposer des sanctions sur le peuple malien pendant que nous avons réalisé et observé que la solution n'est pas entre les mains de ceux qui sont en train de gérer cette crise aujourd'hui.
Est-ce qu'il faudrait craindre un bras de fer entre l'État malien et l'organisation onusienne?
Il ne peut pas y avoir un bras de fer. C'est ça aussi la gestion de nos leaders. Nous sommes un pays souverain. Nous devons, c'est vrai, que le peuple malien tout entier s'impatiente dans l'application de l'accord que nous avons. On l'a dit, ce n'est pas un accord parfait, mais il faut l'exécuter aujourd'hui. C'est le seul instrument pour la paix que nous avons aujourd'hui.
Yessa Maké, ancien ambassadeur du Mali en Inde.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En 2016, les Béninois assistèrent joyeux à la cérémonie d'investiture de Patrice Talon, homme d'affaires ayant fait fortune dans le coton après 10 ans de gestion de Boni Yayi. 2 ans après l'élection de Patrice Talon, les espoirs portés semblent s'effriter pour laisser place à une déception. Le point avec la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur-Adambé.
100 000 emplois par an pour résorber le problème du chômage, telle était la promesse faite par Patrice Talon. Mais 2 ans après son élection, à la tête du Bénin, le gouvernement Talon n'a réussi à créer que 63 284 emplois selon la plateforme des organisations de la société civile dans un rapport publié le 6 avril 2018 et supprimé des milliers d'autres par le biais des réformes institutionnelles et politiques très controversées.
Et le gouvernement actuel est vraiment un regard sur l'emploi des jeunes, afin que ceux qui ont les diplômes puissent trouver affaire.
Les jeunes continuent toujours d'attendre. Ce que je conseille pour les jeunes, c'est de l'entrepreneuriat et rien que l'entrepreneuriat. Donc c'est une mauvaise politique que d'investir les jeunes au stage et de les laisser 2 ans après à la maison.
Le chômage est à un taux très élevé actuellement, 14,3% selon l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, INSAE. Le taux de sous-emploi est quant à lui de 50% selon le même institut. Pour certains, le nouveau départ prôné par le président est une utopie.
Le président Talon avait dit « Je suis prêt tout de suite et maintenant ». Mais dans ses actions, on constate qu'il n'est pas prêt.
Côté sécurité, c'est beau. Côté énergie, c'est beau. Le reste, c'est zéro. Le chef de l'État fait des gâchements, c'est pas beau.
Pour d'autres, ce n'est pas encore le pays d'abondance, mais le chef de l'État mérite qu'on lui reconnaisse ses efforts.
Qui dit que le chef de l'État ne travaille pas? S'il a travaillé, moi, du coup, le chef de l'État a travaillé.
Sur papier, on le félicite, mais les réalités du terrain sont là.
En 2 ans de gestion de Patrice Talon, la vie est de plus en plus cher. Les produits de première nécessité ont connu une nette augmentation. Le pain est toujours à 125 francs la baguette. Le gari fabrication locale a connu une hausse de 100 francs CFA. Le taux de misère et de pauvreté, selon l'INSAE, est passé de 35,1% en 2014 à 41,7% en 2018. Pour Edouard Sonou, économiste de formation, les causes sont évidentes.
La pauvreté est ambiante et la misère, c'est la chose la mieux partagée au Bénin. Nous avons une économie essentiellement fiscale et ça ne suffit pas. Nous avons une croissance qui est tirée par le coton. On passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement.
Et comme si cela ne suffisait pas, une crise sociale s'est installée et semble résister à tous les appels à la négociation. Pour Patrice Talon, la situation actuelle que traverse le Bénin avec la paralysie de l'administration publique est un chemin essentiel pour atteindre de meilleurs horizons.
Il y a une fronde sociale, c'est vrai, mais à vouloir préserver la paix, la quiétude, la tranquillité telle que nous l'entrevoyons, au sacrifice de l'effort, au sacrifice des réformes, au sacrifice des exigences, une renaissance de notre pays, nous allons compromettre la paix pour les temps à venir.
Une des promesses reste vaine, la question énergétique. Pendant 2 ans, les projets se sont succédés sans pour autant résoudre l'épineux problème des délestages dans les multiplications ces derniers mois constituent un casse-tête pour les chefs d'entreprise et les ménages. De Cotonou, Ginette Fleur Adambé pour VOA Afrique.
Voilà, on vous laisse avec Eloko Oyo de Fally Ipupa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Georges Léonard Sagnon à la mise en onde, Dan Crafton à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actu. Excellente suite de programme.
Afrique. Les